I see this kind of psychedelic woman for some night club and I ask her.
Bonjour à tous, vous êtes à l'émission Psychodéva, c'est une émission bien-être, bonheur. Et nous sommes déjà depuis 2 mois que nous faisons cette émission. Aujourd'hui, on va être plus un dialogue avec Virginie, que je laisse la main, c'est elle qui va poser les questions. Et moi, je lui poserai des questions aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème plus global. Qu'est-ce que c'est le bien-être? Comment on peut être heureux? Comment on peut être bien dans sa peau? Et comment accepter aussi d'être mal dans sa peau? Donc, Virginie va vous donner le téléphone pour que vous participiez aussi. Sans se fâcher, parce que j'ai vu qu'il a bougé le micro trop vite.
Bon, les micros, c'est très sensible, toujours.
Il est trop sensible. Le micro, c'est le plus sensible qu'il y a. Vous voyez comment ouais, ça vient. Le téléphone, c'est le 04 91 08 28 10.
Oui, bonsoir à tous. C'est donc Virginie Sancho, une amie de longue date de Victor Hugo Espinosa. Ravie d'être avec toi pour ce psychodébat. Invité peut-être un petit peu du dernier moment, du dernier quart d'heure, mais est-ce que ce n'est pas ça le bonheur finalement?
Oui, le bonheur, c'est déjà accepter le moment présent. Et peut-être ma mère qui n'est plus dans ce monde-là, il m'a dit toujours, quand il y a un problème, quelle est la solution? Si tu commences à regarder le problème, finalement tu ne trouves pas la solution parce que tu es trop attaché à quelque chose qui est déjà passé. Donc pour moi, une des choses qui est importante, c'est pouvoir vivre le moment présent à fond. Si le moment présent a des difficultés, je suis de ces petites personnes qui ont toutes les lettres de l'alphabet. Le plan A, le plan B, le plan C, le plan Z. Ça veut dire que tu as plein de plans, de possibilités, mais des fois on ne les voit pas parce qu'on est trop, trop angoissé de ce qui vient de passer ou de la problématique qui était en face de toi.
Donc l'angoisse serait liée à l'incapacité à vivre au présent. L'angoisse, c'est l'avenir, c'est le passé.
Et je dirais que l'important, qu'est-ce qu'on vit? Pour être heureux, c'est chaque présent qui doit être le plus merveilleux possible. C'est merveilleux. Mais en même temps, chaque présent, des fois, il présente des problèmes. Et ces problèmes, il faut savoir les surmonter. Donc pour moi, j'ai toujours eu la chance et la mauvaise chance parce que on peut dire qu'on est dans le bonheur total quand on a beaucoup souffert en même temps. Parce qu'on sait la différence qu'il y a entre la souffrance extrême et le bonheur extrême. On sait quand on a vécu un petit amour et un grand amour. Vous savez qu'on a un comparatif.
C'est le yin et le yang, non?
Oui, donc si tu veux, après, j'ai appris depuis tout petit, je vous raconterai de certains drames que j'ai vécu dans ma vie. De tout petit, j'ai appris à dire qu'est-ce qu'on fait, comme ma mère me l'a dit plein de fois. Quelle est la solution? Je suis en prison, je suis dans la salle de torture. Quelle est la solution dans cet instant-là? Quelle est la solution si meurt quelqu'un que j'aime beaucoup? Il n'y a pas de solution pour rapport à la personne qui vient de mourir, mais il y a une solution pour le regard que j'ai fait pour ces personnes qui viennent de mourir. Par exemple, ma grand-mère, quand elle est morte, j'ai pleuré beaucoup parce qu'elle était à 12 000 km d'ici, au Chili. Et j'ai pleuré, et un jour je me regarde en train de pleurer, je suis tout seul, je vois que je pleure, je dis « Pourquoi tu pleures mon petit con ?» Je me dis moi-même. Des fois je suis con quand même. donc je dis « Pourquoi tu pleures mon petit con ?» Je me dis « Tu pleures parce que j'étais en train de tuer ma grand-mère une deuxième fois dans ma tête. Pour ne pas souffrir, il fallait que je l'élimine, que je la mette dehors. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est le contraire qu'il fallait faire.
C'est l'acceptation, accepter la douleur, se laisser traverser par les émotions.
Accepter la douleur pendant cette période, mais décider de faire le contraire de ce qui me demande mon corps, de l'oublier. C'était le contraire, j'allais contre ça et je l'ai gardé tout le temps, il est dans toute ma vie, il est toujours là.
Et donc, comment elle est là, ta grand-mère? Est-ce que tu peux nous donner des... Oui, le mot de passe, ça peut être le nom sur le mot de passe.
Ça peut être le nom de l'ordinateur,
ça peut être
un moment, par exemple, qui était content. Mes deux meilleurs amis, aujourd'hui, sont deux personnes qui ne sont plus là dans ce monde. C'est les personnes que je parle dès que je suis heureux, c'est ma mère et ma grand-mère. Je les parle, mais je sais que je les parle, je ne suis pas loco. Je sais que je les parle et ça me fait plaisir de les parler. Donc vivre le moment présent tout à l'heure, tu as dit, pour moi c'est ramener du passé ce qui est riche et voir le futur, c'est que je vais aller dans ce sens-là, je vais rêver. Pour moi le futur c'est rêver. Et le passé, faire venir les choses qui sont jolies à faire venir. Et si des fois je fais venir quelque chose qui est douloureux, c'est peut-être important pour moi pour mieux comprendre c'est qu'on est dans un monde quand même qui est difficile des fois.
Et alors, ce bonheur au présent, est-ce qu'il dépend de comment on se sent dans son corps ou pas? Est-ce qu'il y a un rapport au corps qu'on doit penser pour être plus heureux? C'est vraiment, on parle beaucoup de salons de bien-être, de festivals bien-être, de massage, de méditation. Tous ces courants-là, en quoi tu penses qu'ils sont importants ou pas, ou moyennement importants pour participer du bonheur?
Il manque, que j'appelle, les macros de l'angoisse. Mm. C'est-à-dire que les gens qui profitent de la douleur des gens pour se faire des fric. Mm. Et ça, je trouve que c'est horrible. Par contre, je suis pour tous ces gens-là qui font, quelle que soit la technique, dans la bienveillance pour aller bien, oui. Donc, je suis pour tous ces gens-là. Mais il y a une chose qui, pour moi, c'est très important, c'est que 99,9% de ton bonheur dépend de toi et pas des autres, ni de la situation. Ça veut dire que dépend de toi, parce que moi-même, j'étais, comme j'avais dit, dans la salle de torture, je pouvais attendre juste une chose, la torture. Mais il y avait une lumière qui faisait tout éclairer. C'était ma fille qui avait 9 ans. Il était où? Pour moi, je pensais que ma fille, il fallait qu'il soit là pour elle. Donc c'est ça qui m'a donné la lumière. À cette époque-là, j'avais un seul enfant. Il m'a donné la lumière, et une lumière dans ton esprit, ça change tout. Parce que beaucoup de gens sont devenus fous, d'autres se sont suicidés, d'autres sont morts. Et d'autres aujourd'hui sont malades.
C'est ce que j'allais te dire. La notion d'être assez fort et trouver les ressources pour être heureux, même dans les pires conditions physiques et peut-être d'enfermement, ça nous fait penser à Nelson Mandela, évidemment, qui restait combien d'années dans sa cellule. Mais c'est exceptionnel. Il disait, a priori, en sortant, il avait dit qu'il connaissait des poèmes et de la littérature par cœur. Et que pendant toutes ces années d'emprisonnement, il se les était récités. Il les avait étudiés en profondeur. Mais je trouve ça... Autant je trouve que c'est une histoire merveilleuse de la capacité d'un être humain à aller chercher dans ses ressources les plus profondes, autant je pense que tout le monde n'est pas Nelson Mandela. Alors, quel conseil tu donnerais, Victor, aujourd'hui, à quelqu'un qui vivrait des difficultés, peut-être pas aussi graves que l'enfermement, mais qui, pour essayer d'alléger un petit peu peut-être sa tristesse et d'aller vers plus de bonheur?
Tout dépend de l'âge. Parce qu'on est tout petit... Par exemple, quand j'étais tout petit, j'avais 8 ans, 9 ans, mon beau-père s'est suicidé. Comment il s'est suicidé? Je lui ai aidé ma mère à couper la corde. C'était mon beau-père qui était mon seul père. Dans ces cas-là, je me suis rendu compte très vite, quand on est petit, on va se trouver un refuge. On va cacher des choses dans l'inconscient. Donc évidemment, dans ces moments-là, le conseil que je donne, restez enfant. Et comprendre pourquoi, après j'étais fâché avec cet homme, pourquoi il s'est tué, s'il m'aimait autant. Et finalement, avec le temps, j'ai compris qu'au fond, il souffrait tellement que j'ai compris, j'ai pardonné, j'ai dépassé ça. Ça, c'est en tant qu'enfant. Après, j'ai compris très vite aussi que la résilience, c'est la chose la plus importante de tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre longtemps pour sortir d'un trou, il faut sortir très vite. Ça veut dire que quand tu es confronté à quelque chose, quand tu peux réagir rapidement en face d'un malheur, et il faut transformer les choses, c'est le regard des choses. Par exemple, quelqu'un m'a dit, je vais vers ces filles que j'aime beaucoup, beaucoup, et elle ne veut plus de moi, donc tu te sens rejeté. Mais tu peux avoir la même lecture, dire, dommage pour elle qui ne m'a pas accepté. Ça veut dire que c'est tout un problème de dire comment tu conçois les choses et comment tu conçois l'amour. L'amour pour toi, l'amour pour l'autre, l'amour pour les autres, l'amour vers toi. Tous ces amours-là, si tu arrives à les régler, si tu arrives à bien t'entourer, je pense que tu n'as pas beaucoup de problèmes. Parce que tu peux avoir des problèmes qu'on appelle freudiens, par exemple le fait de ne pas être aimé, peut-être ça peut durer toute une vie, mais peut-être tu règles ça avec le psychocomportementalisme, ça veut dire que tu te fais aimer pour tant de gens, qu'il y a deux qui partent, deux qui arrivent. Je ne parle pas des hommes-femmes, hein. Je parle d'amitié, je parle d'amour. Dans le sens large du terme, l'amour à la terre, l'amour aux choses que tu fais.
La question que tu disais tout à l'heure, rester enfant, ça fait penser un petit peu au syndrome de Peter Pan. Moi, je me pose souvent la question, est-ce que rester un enfant, c'est permet d'avoir accès au bonheur, de tout accueillir avec cœur, avec joie, avec une forme d'innocence, et crier et chanter dans la rue et faire ces choses que, à titre personnel, je fais toujours et que j'ai gardé de mon enfance. Et est-ce que rester enfant, ça n'empêche pas de construire? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre le moment présent, rester enfant, prendre tout comme ça vient, et donc accueillir la joie et construire? Est-ce qu'il faut construire pour être heureux son bonheur? Est-ce que la résilience, ça va par là?
Oui, mais déjà, quand tu dis un enfant, par exemple, il va dire comment rester enfant. Tu peux avoir un âge très, très, très avancé et être un enfant. Et être gardé, ça ne veut pas dire que tu es un enfant pour tout. Tu es un enfant pour toutes les choses qui te permettent la vie. C'est un peu comme rire. Tu ne ris pas avec tout le monde, mais tu ris avec des gens qui te sourient, tu ris avec des gens qui rient avec toi, tu ris avec toi pour des petites choses tout bêtes. Donc, quand tu es dans ce regard d'enfant, oui, il faut le garder. Par contre, tu peux très bien être un enfant, garder l'enfant pour la créativité, sans limite, tu penses à tout, et c'est ça qui te rend heureux. Votre enfant aussi, ça peut être tout simplement, des fois dessiné, tu te sens un enfant. Ça
veut qu'est-ce dire que tu fais toi, à titre, qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance comme activité ou comme réflexe?
Moi, si tu veux, ce que j'ai gardé mon enfance, c'est que, au sein de mon enfance, c'était pas très très belle, mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était seule, on était deux enfants, elle était seule. Je comprends aujourd'hui la difficulté, parce que ce n'est pas aussi évident de trouver les chéris avec deux enfants qui sont là, et c'est compliqué. Donc ce que je garde beaucoup, beaucoup, c'est l'amour. Et en même temps, je garde beaucoup, si tu veux, les rires, parler, amuser les gens. C'était tellement important que depuis que j'étais tout petit, j'ai compris qu'il fallait être clown. Donc j'ai créé un club du rire. J'ai créé un club du rire ici en France. J'ai travaillé comme clown au Chili. Donc je pense que c'est important. Et déjà pour rire toi-même, il faut que les autres rient aussi. Partager le rire. Et ça, c'était une chose que j'ai appris.
Un rire par jour, ce serait la recette.
5 minutes de rire par jour, ça équivaut, à mon sens, de 2 heures de méditation des fois. Ça dépend quoi on fait, mais des fois, rire, c'est une façon de se relaxer. Et pour rire, il faut se détendre. Il faut rigoler de mon accent. Par exemple, quand j'arrive à l'école, les enfants, ils vont dire « Oui, il est où ?» Tout le monde rigole. Il faut laisser faire, parce que ce n'est pas méchant. Ça passe 30 secondes et c'est fini. Il n'y a plus de ces trucs. Mais tout le monde, et oui, c'est un accent différent. Donc, pourquoi pas, je pourrais rire. Donc, il faut apprendre la mouche qui se colle chez la voisine là, qui est là, et tu rigoles. Enfin, il faut laisser rire. Il vient souvent dans une société trop stricte. On commence depuis que tu es petit, on ne rit pas de ça, on ne rit pas d'ici, on ne rit pas ça. On met trop de normes. Et finalement, on finit pour coincer un enfant et coincer aussi son bonheur de vie.
C'est une question que je me pose, je te parle un peu de ma vie, j'en profite, mais ma petite fille, qui sourit souvent, qui est très drôle, qui a 8 ans, elle a des difficultés avec l'autodérision. J'ai du mal à lui faire passer. Alors je lui dis, c'est peut-être sa mère n'a pas d'autodérision, c'est pour ça qu'elle n'en a pas elle-même, mais souvent elle se vexe si on lui fait une remarque pour rire avec elle. J'arrive pas à lui expliquer ça. On peut rire avec toi et pas de toi. Et elle dit toujours, non, vous riez de moi, vous riez de moi. Mais non. Et donc, très sérieuse sur son image pour une petite fille de 8 ans. J'aimerais bien que tu donnes un conseil, peut-être,
pour moi, le conseil,
sur l'autodérision. Comment on fait?
C'est très simple pour moi. C'est assez simple de parler comme ça. Mais c'est un peu comme le racisme. Il y a des gens, par exemple, je donne un exemple, moi et mon frère. Moi, par exemple, quelqu'un me dit, Victor, vous avez un accent. Pas un accent, un gros accent, je rigole. Et ça me fait plaisir. Presque que les gens me disent que j'ai un accent parce que j'adore être différent. Par exemple, mon petit-fils, un jour, est venu me dire « Papy, il veut pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils m'ont dit qu'il était bizarre. Mais qu'est-ce que c'est bizarre? Est-ce que moi, je suis bizarre? Je lui ai demandé, mais toi, tu es bizarre, bizarre, chez les bizarres, me dit, comme ça. Et qu'est-ce que c'est bizarre? On te voit, c'est quelqu'un qui n'est pas comme la norme. Et moi, je n'aime pas être comme la norme. Donc déjà, il faut accepter de ça. Et quand tu acceptes ça, que tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas comme les autres, mais tu aimes les autres, tu es très bien dans ta peau. Par contre, si mon frère, par exemple, voulait dire, et son coiffeur va lui dire, vous n'êtes pas d'ici, ça fait 10 ans qu'il se coupe les cheveux chez lui, il se sent mal parce qu'il croit que c'est racisme. Ce n'est pas de racisme, c'est juste que les mecs ne se rendent pas compte, mais lui va recevoir comme ça. Donc il revient à ta fille. Si ta fille ou les enfants, des fois ils voient, par exemple, quand je travaille avec les enfants, ils travaillent 10 minutes, ils savent que je les aime. Et comme ils savent que tu les aimes ou que tu es content avec eux, que tu es content de ce qu'ils font, de parler en public, tout ça, l'enfant, il te fait confiance. Et quand il te fait confiance, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si quelqu'un rigole, j'arrive à mon bureau, il a dit qu'ils sont en train de parler avec mon accent, moi, je ne peux pas, je peux pas avoir un regard des autres qui est plus beau parce que c'est moi qui suis en train de causer de rire. Par contre, si quelqu'un, je sens qu'il a une méchanceté, comme le racisme, là, tu sens qu'il y a une différence. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas, il faut presque rigoler pour montrer à ces gens-là qu'ils sont idiots.
Pour être sont, dans le dédain. Sont,
voilà. Je te le montrais parce que sinon,
pas leur donner l'importance
quand on a
trop
le regard des autres, c'est des fois l'éducation, il dit qu'il faut être bien, il faut être mieux, il faut être mieux. Il ne faut pas avoir une lutte à être meilleur que d'autres. Par contre, il faut avoir une lutte pour être dans le bonheur. Un jour, mes enfants m'ont posé la question, « Papa, tu veux qu'il soit ingénieur comme toi? Tu veux quoi ?»« Moi, je veux juste une chose, que vous soyez heureux. C'est ça le diplôme que vous devez avoir, rien d'autre. »
Et aucun conseil,
aucun
pas, de directive, pas de directive, pas de tu feras médecine, pas... mon fils,
non, non,
rien.
Mais ils ne m'écouteraient pas non plus parce qu'ils ont un caractère comme le mien, ils écoutent ce qu'ils veulent. Un jour même, mon fils, il était en train de finir la licence et il m'a dit, papa, tu m'as dit que tu voulais qu'il soit heureux, tout ça. Oui, mais je voulais que tu fasses heureux, que tu sois heureux, donc voilà. Je voulais te dire que demain, je pars au Danemark. Il est parti au Danemark. Et
demain.
C'était très dur pour la maman, pour moi aussi un petit peu, mais moi, comme...
Il est parti, il est toujours là-bas.
C'est un peu comme la famille Bélier.
Ah oui, j'aime.
Voilà, la famille Bélier, tu laisses partir les gens que tu aimes parce qu'eux, ils veulent être heureux.
Laisser partir, le lâcher prise et accepter la liberté de l'autre.
Par contre,
c'est ça le bonheur aussi.
Oui, et tu disais une chose tout à l'heure, est-ce qu'on peut être heureux si on est très très malade? Je pense que si physiquement j'ai mal à mon pied, par exemple, je ne serai pas aussi heureux. Parce que j'ai mal à mon pied, j'ai mal à la tête, j'ai mal... Les gens qui sont malades, tout ça, des fois, ils nous donnent des leçons. Parce que j'ai vu qu'il y a des copains qui ne voient pas bien, des copains qui ont des problèmes. Et finalement, je ne sais pas comment ils font une résilience avec leur malheur.
Oui.
Ils font du bonheur. Les petites choses qu'ils font, tu te sens bien. Donc, c'est pour ça que la santé physique et la santé psychologique sont très importantes. D'ailleurs, il y a un livre qui dit « Ton corps, il y a une mémoire ». Ça veut dire que moi, par exemple, quand c'était l'anniversaire de ma grand-mère, de ma mère, j'avais mal au ventre. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais c'était juste la date de la mort de ma grand-mère. Ça veut dire que mon corps s'est rappelé que c'était la mort d'elle.
Donc, c'est quand on somatise et le corps est tué.
Mais des fois,
il faut
laisser faire.
Il faut laisser faire.
C'est un peu comme si toi, tu as quelqu'un qui est un ami, tu vas, et qui meurt ou qui souffre, tu souffres avec. Tu dirais, est-ce que tu es malheureux? Non. Je suis heureux, mais j'ai un cœur, c'est pour ça que je souffre. Je suis en empathie avec quelqu'un que j'aime. Donc, je l'accepte, et comme je l'accepte,
tu as dit le mot empathie, moi, il me semble très important. Tu vois, je partage un peu de mon expérience, mais j'ai ma maman qui est malade et qui, en ce moment, a des souffrances corporelles très fortes, mais qui est toujours capable de communiquer. Et je trouve qu'elle fait partie des... Je l'admire. Parce qu'elle ne parle pas constamment de sa douleur, alors que je sais qu'elle est très forte et qu'elle est capable de penser encore aux autres. Alors que dans son cas, on aura envie de penser qu'à soi, de se recroqueviller sur sa douleur. Elle arrive à penser toujours aux autres. Et elle a trouvé des communautés de personnes qui souffrent des mêmes maux, sur des réseaux sociaux par exemple. Et j'ai vu qu'il existait des réseaux d'entraide entre personnes qui avaient l'empathie de comprendre la même douleur. Parfois, je pense qu'on peut se rapprocher d'une forme de bonheur quand on peut toujours communiquer avec les gens qui comprennent la douleur qu'on ressent parce qu'ils ressentent la même. Là, on a parfois besoin d'être en communion avec des gens qui comprennent de l'intérieur le problème. Tu ne crois pas ?
Oui, je crois à 100%. J'ai des exemples. Même ma fille qui a eu passé pour un problème d'AVC, si tu veux. Et les gens qui les comprennent le mieux, c'est les gens qui ont passé le même type de problème. Donc, ils te sentent unis. Surtout, il y a beaucoup de maladies orphelines qui ne sont pas traitées comme il faut parce qu'il n'y a pas assez de recherche. Et les gens, ils trouvent dans ces groupes des solidarités. Et la solidarité, c'est quelque chose que je dirais que c'est un mot qui porte du bonheur. C'est un peu comme la philanthropie, on va dire comme ça. Et ça porte du bonheur parce que je vous donne un exemple. Quand j'étais ces 40 jours dans le coup d'État de Pinochet en prison, ces 40 jours, je crois que c'était le pire de ma vie, mais le meilleur de ma vie en même temps, parce que je n'ai jamais vu le pire à cause des tortionnaires, à cause des méchants, on va dire comme ça, d'une extrême droite aussi chilienne à l'époque, qui était très, très, très liée à la torture. Et en même temps, si tu veux, j'ai eu ça, mais en même temps, j'ai vu que tous les gens qui ont souffert en même temps, tout le monde était ensemble. Et on ne pouvait même pas faire un geste déplacé. Pour te dire, je regarderai tout ça, je suis en train d'écrire un livre sur ça. À la fin, déjà de 30 et 35 jours, il y a des copains à moi, j'avais plein de copains partout, ils m'amènent des chocolats. Et nous, par définition, on partageait tout. On était 90 prisonniers, on partageait tout. Et donc, j'ai reçu plein de boîtes de chocolat, on a divisé de telle façon que chacun, mettons, avait 4 ou 5 carrés.
De chocolat.
5 carrés. Et à la fin, il me restait 7 ou 8, plus que les 4, les miens.
Tu t'en étais bien sorti.
Donc, les 7 qui étaient là, ils restaient là, parce qu'on ne pouvait pas les diviser. Donc, je les gardais. Et j'ai dit, de toute façon, c'est moi qui l'amenais, je vais essayer, je vais les manger pour moi, mais dès qu'on est à la lumière. On est à la lumière, j'ai mangé mes 4 chocolats, mais tout à coup, la pression de cette solidarité tellement, pas stricte, je dirais tellement...
Forte, puissante.
Que j'allumais à pleurer, j'ai dit, je suis un
salopard. Je
voulais manger mes 7 petits, il m'a dit, tu as pris le fer, et après on a partagé, on a coupé les... On a fait tous ces trucs. Mais c'est pour te dire, la force de cette solidarité est telle, mais qui t'apprend dans la vie qu'il faut être comme ça. Qu'il faut apprendre à partager.
Ça revient à ce que tu disais au début un petit peu, que dans des pointes de malheur ou des nuages de malheur, de là peuvent émerger des solidarités, des histoires assez merveilleuses. Alors, ça nous fait poser la question, est-ce qu'il faut qu'il y ait un malheur pour que le bonheur émerge? Je n'en suis pas certaine, mais peut-être que le monde va ainsi. Je pense au grand tremblement de terre à Mexico en 85, de ce grand tremblement de terre qui avait fait 10 000 morts à l'époque, parce que tu sais bien que le Mexique, c'est une histoire que je connais un petit peu, pour y avoir vécu. Je sais que de ce tremblement de terre étaient nées des solidarités dans les quartiers pour aller dans les décombres, pour sauver les gens qui étaient encore sous les décombres et sauvables, qui étaient inimaginables. Et puis c'était organisé, comme dans ce cas souvent, des façons comme alternatives de trouver de la nourriture, de se nourrir, de se soigner, de se déplacer. Je me demande si... comment on fait pour être heureux sans attendre qu'il y ait une catastrophe, en fait.
C'est fou ce que tu as dit, parce que finalement, moi, je suis devenu ingénieur. 10 ans d'études après le bac au Chili. Je suis devenu ingénieur à cause des catastrophes, des tremblements de terre au Chili. Il y avait tellement de morts que j'ai dit...
Avec Los Peritos.
J'ai tellement peur pour les gens que j'ai dit, je vais commencer à faire des plans pour les aider à les gens à se sauver la vie, à sauver la vie des inondations et de toutes les catastrophes. Et j'ai fait un doctorat, là-bas c'est pas un doctorat, sinon c'était une espèce de thèse que tu fais pendant 3 ans sur les risques majeurs. Il y avait les tremblements de terre, les incendies, les inondations, et je l'ai fait pour sauver des vies. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, tu dis, on ne va pas chercher le malheur, c'est quand le malheur arrive, il faut... Mais le gros problème de cette vie aussi, que si tu es sensible, tu te dis, je vais essayer de garder une distance pour être heureux. Mais si tu gardes trop de distance, tu deviens inhumain. Donc, à un moment venu, il faut dire pour qui je garde l'empathie.
La juste distance.
La juste distance. Donc, je vais avoir une variable avec les plus proches. Les plus proches, c'est pour ça que je crois beaucoup à la famille du cœur et pas la famille des sang. Parce que la famille du cœur peut changer tout le temps. Peut avoir des gens que tu vas aimer beaucoup plus qu'un cousin, qu'un oncle, parce que la vie est différente. Et c'est pour ça que je dirais, quand tu dis, est-ce qu'on doit avoir des catastrophes pour être malheureux? Non. La preuve, là, tu rentres dans un sujet qui, pour moi, est très, très important, que j'avais lu un livre sur ça, c'est l'avoir ou l'être. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans toutes les sociétés développées, on a tellement allé dans l'avoir qu'on s'est fait avoir avec l'avoir et on s'est fait avoir avec le paraître, que finalement, c'est là qu'il vient le lien avec ta fille aussi, quand on a trop peur du regard des autres, quelque part, on est trop impression de faire mieux, c'est faire mieux, et je ne dois pas faire une faille. Et c'est là qu'il vient le cours que j'avais fait avec toi, tout ça, d'apprendre à accepter l'erreur. Ça, c'est capital.
Pour soi si apprend, et pour les autres.
Si on n'apprend pas les enfants à faire des erreurs, c'est là qu'il vient l'exigence maladive, et des fois un perfectionnisme maladif, et qui fait souffrir parce qu'on est toujours le regard des autres. Les autres, bien souvent, dans les écoles, des fois, ils ne sont pas si gentils que ça.
Non, ça commence tôt, les critiques.
C'est là qu'ils viennent l'harcèlement parce qu'ils savent que tu es sensible. Et comme tu es sensible, ils vont profiter de ces moments-là. C'est là qu'il faut se protéger. Parce qu'il faut apprendre, quand on est hypersensible, quand on souffre de tout, parce que ce monde aujourd'hui, lundi, je vais à un lycée à Toulon pour faire une éloquence. Et c'est là que j'ai fait une vidéo pour la COP. Et c'est là que j'étais très, très touché de voir que des enfants aujourd'hui ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils disent dans ce monde, l'éco-anxiété, qu'est-ce qui va arriver avec nous. Et c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est quand même très dur. Tu as vu qu'un jeune sur trois avec santé mentale qui sont fragiles.
Oui, et ces chiffres depuis l'année de Covid où on est resté enfermé, apparemment ça a eu des conséquences importantes. Donc, ce n'est pas le seul critère et le seul contexte.
Donc tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce les plus importants, c'est l'avenir qui va venir. Parce que nous, on vit de quoi ? On vit de l'avenir.
L'espoir.
On vit de présent,
de l'espoir
mais
aussi.
On vit de l'avenir aussi. Donc, comme on vit de l'avenir, c'est qu'il faut se projeter. Quel est le sens que je donne à ma vie quand je me lève ? Quel est le sens que je donne à ma vie cette semaine ? Quels sont les objectifs pour cette semaine ? Quel est l'objectif d'être là avec toi aujourd'hui devant cette radio ? Et c'est ça. Si on sait pourquoi on est quelque part, c'est les choses...
Si des personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient participer, nous dire quel est le sens qu'ils ont pu donner à leur vie, une idée parfois. J'avais entendu, je voudrais partager cette idée justement, il suffit d'une idée pour être heureux, pour trouver un sens à sa vie.
Oui.
Une seule idée.
Une seule idée, mais
élever
quoi ?
Son enfant.
Mais pourquoi ?
Sauver la biodiversité, la mer, s'occuper des chats dans un refuge. Une idée peut suffire.
Si tu te lances à toutes les idées, tu vas être frustré parce que tu ne pourras pas les faire. Donc j'appelle les pitbulls de l'écologie. Ça veut dire qu'on prend une idée et on essaye d'aller le maximum au loin de ces choses-là.
Et donc les auditeurs au 04 91 08 28 10, appelez pour partager l'idée qui vous permet de trouver le bonheur et qui peut vous faire vivre.
Et on va mettre une petite chanson que nous a conseillé un grand musicologue, on va dire comme ça, et qui s'appelle « La pluie et les beaux temps ». vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Psychodébat, dans laquelle vous pouvez participer si vous le souhaitez, poser des questions au 04 91 08 28 10. Donc aujourd'hui, on est en train de parler un peu de l'essence de la vie, qu'est-ce qu'il faut pour être dans le bien-être et dans le bonheur. Donc j'aimerais poser la question à Virginie et savoir, par exemple, là, on va la partager en trois parties. La partie enfant, quel est ton moment de bonheur que tu penses, que tu te sentais. Parce que ce n'est pas pareil d'avoir un moment de bonheur et se sentir dans le bonheur.
Mmh, c'est très différent.
Vas-y, donc explique-moi la différence.
C'est compliqué. Je pense, est-ce que mon enfance est une enfance heureuse globalement? Donc choisir un moment...
Pourquoi?
Ce sera plutôt un moment de joie que de bonheur, parce que j'ai eu une enfance heureuse globalement.
Pourquoi heureuse?
Je crois que j'ai pu m'adonner aux passions que j'avais envie d'aborder. J'ai pu faire de la musique. Je suis une enfant qui avait besoin de musique dans sa vie. J'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du sport collectif, du volleyball. Je crois et je remercie mes parents pour ça.
Donc tu as eu de l'amour.
J'ai eu de l'amour et j'ai eu de la liberté. Une liberté très sélectionnée, c'est-à-dire que c'était très strict quand même à la maison sur les horaires. Je rentrais, voilà, on m'amenait d'un point A à un point B.
Ce qui et était... toi, tu voulais aller au point D.
Moi, je voulais aller à Mexico. Et dès que j'ai pu, je suis partie très loin, là où j'avais la liberté totale. C'est vrai que je suis quelqu'un qui avait besoin d'être libre de ses déplacements. Mais j'ai pu au moins penser à ce que je voulais quand j'étais enfant, lire les livres que je voulais lire. Écouter les musiques que je voulais écouter et la liberté, elle était dans ma chambre.
C'est joli ça, parce que tu n'avais pas besoin de... Il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et n'ont pas assez de kilomètres pour se connaître soi-même. Et peut-être ça, c'est important aussi, savoir se connaître. Donc, et après, quand tu étais... Maintenant ?
Maintenant ? Après, il y a le jeune adulte. C'est différent. Moi, j'ai pas de secret. J'ai 42 ans hein, pour les auditeurs. Mais quand j'avais 20 ans, c'est les moments les plus forts, justement, sont quand j'ai pu toucher du doigt cette liberté de voyage. Donc, en retournant sur les traces, je ne sais pas, peut-être du Chiapas, en arrivant dans une forêt semi-équatoriale et voyant les pyramides de Palenque sortir de la forêt, et tout en étant accompagné par des amis chers, parce que le voyage, ça se partage. Ça, c'est une des conclusions du film Into the Wild. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est l'idée que la liberté, l'indépendance et le voyage n'ont que peu de valeur si on ne peut pas partager avec quelqu'un son bonheur.
C'est sûr, c'est voilà. Sûr.
Et commenter, partager un bon repas, commenter un beau paysage.
Moi, c'était tellement grave dans mon cas que je n'ai jamais mangé tout seul. Même quand j'étais tout seul, comme je suis en baratineur, je parlais avec quelqu'un, je me mettais à manger toujours avec quelqu'un. Donc, je n'étais jamais seul parce que j'avais peur d'être seul. Après, j'ai appris à être bien seul aussi.
En sécurité, tout seul.
Oui. Pas tant en sécurité comme en liberté.
Liberté.
Parce que ce n'est pas la sécurité que je cherche, c'est juste, par exemple, écrire, et faire ce que tu as envie de faire. Et voilà, j'aime beaucoup écrire, mais écrire des choses que je pense moi. Donc ça, j'aime bien être libre pour pouvoir penser ce que je veux. Créativité. La créativité, c'est peut-être... Je dirais que la créativité, bien gérée, c'est un grand bonheur. Une créativité mal gérée, c'est un grand malheur.
C'est certain. C'est certain. Ça veut dire la doser. Il faut doser
tout doser,
c'est important. Et je vais finir juste par te donner à 42 ans, le bonheur prend une dimension différente. Je m'en suis rendu compte et je me suis rendu compte que je disais à peu près la même chose qu'avait déjà dit mon père, mais dans d'autres circonstances. Le bonheur aujourd'hui pour moi, c'est être à Noailles, me balader avec ma petite fille. Avec quelqu'un que j'aime par ailleurs, et tous les trois faire les boutiques, avoir assez de sous pour pouvoir sélectionner des fruits et légumes, sélectionner une viande et savoir qu'on va rentrer à la maison pour cuisiner tout ça et qu'on aura fait les courses ensemble dans le centre de Marseille. Aujourd'hui, ça pour moi, c'est le bonheur.
Mais ce que tu dis, c'est assez drôle. C'est assez drôle pour la raison suivante, parce qu'au fond, indirectement, tu es en train de dire quelque chose qui est lié à l'alimentation. Notre alimentation, où nous, on a tout notre bonheur dans notre bouche, avec les papilles, les odeurs, les saveurs. Et moi, je vais manger une glace à la vanille, c'est ma grand-mère que je suis en train de manger avec elle, le coco avec ma mère, et des fois, la façon de préparer ces plats avec amour, tu es en train de manger l'amour. Donc finalement, ce que tu dis, tout ce que tu dis se traduit à être ensemble pour pouvoir savourer la vie et les plats ensemble. Et les petites choses, et pas des grandes choses, parce que peut-être il a déjà vécu, et c'est peut-être pour ça que tu dis, c'est pour ça que tu as parlé des moments présents, et moi je crois beaucoup à ça. Il y a des gens qui passent leur vie à être dans le passé, et dans les mauvais passés des fois, ou passent leur vie à être dans un futur angoissant. Et aujourd'hui, avec ce qui nous montre la télé, ce qu'on voit partout, c'est plus qu'angoissant. Donc des fois, il faut se dosifier pour voir la télé. Tu vois BFM peut-être ou un autre truc une fois par semaine, et deux fois, ça n'a pas changé grand-chose. Donc peut-être aussi dosifier en fonction de ta sensibilité. Et plus les gens sont sensibles, plus ils sont mal placés dans ce système, dans ce monde. Parce que quand tu es trop sensible, des fois, il y a des méchants qui vont te manipuler,
qui vont utiliser ta sensibilité
pour le plaisir de massacrer quelqu'un. Moi, je vais te dire un peu ce qui...
Dis-moi, toi, tes moments de bonheur dans ta vie,
les moments
enfance...
tous les moments de bonheur, ils sont déjà, peut-être, aujourd'hui, les moments de plus grand bonheur, c'est qu'aujourd'hui, je suis satisfait de ma vie. De tout ce que j'ai construit, quand j'ai dit 3600 articles de presse, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est ce qu'il y a derrière tout ce que j'ai fait. De faire des cours de communication, quand je regarde ma vie, avoir eu le chevalier de l'ordre des mérites, qui pour moi, ce n'est pas, j'ai pas des trucs ni rien, je les garde juste comme un... L'appareil, ce n'était pas moi, c'était l'étranger qui mérite quelque chose, c'est plus pour les autres, c'est pour nous tous. Et toutes ces choses que j'ai faites, je me sens fier de ce que j'ai fait. Et j'ai du mal à... quelqu'un qui veut me déstabiliser, ça va être très difficile parce que je suis assez fort. Par contre, je suis très fragile vis-à-vis des gens que j'aime, les gens qui je donne ma confiance. Je peux être fragile.
Est-ce qu'on peut parler d'un talon d'Achille ou est-ce que finalement c'est quand même plus une force d'avoir de l'attachement?
Non, c'est une force parce que j'ai dit tout à l'heure que pour vivre quelque chose de grand, il faut donner son cœur. Si tu ne donnes pas ton cœur, oui. Si tu donnes trop ton cœur, tu vas souffrir mais des larmes parce que tu as donné trop. Mais si tu ne le donnes pas, tu ne vivras jamais ces grands amours. Tu ne vivras jamais ces grandes choses. Et donc, on peut dire qu'il faut accepter ces moments difficiles. Donc, le moment de bonheur le plus important peut-être dans ma vie, c'est quand j'ai goûté l'absence et la liberté. Vous savez que j'étais en prison et le jour que je sortis de cette prison, je voyais plein de pancartes avec des disparus. Ces moments précis de voir que j'étais pas, la mort était derrière, j'étais en train de la liberté dans tous les sens du terme, c'est là qu'il y avait un moment de bonheur immense. Après, c'est vrai aussi la naissance de tes enfants qui sont importants. Après, il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui sont très importants. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'être satisfait de ce que tu as fait sans faire du mal aux autres. Si tu fais du mal aux autres sans te rendre compte, peut-être, mais quand tu n'as jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de mal...
Sans intention.
Parce que tu peux faire du mal sans vouloir à quelqu'un, tu dis une phrase et au fond...
Tu tombes mal.
La personne, comme tu as dit ta fille, il va dire, il a dit pour moi...
Tu ris de moi.
J'ai dit de toi, et c'est pas de toi, j'ai rigolé pour tout. Donc ça, c'est des moments de bonheur, des moments d'amour aussi. Je choisis toujours la qualité, et pas la quantité, parce qu'il me rend compte que des fois, on cherche. Et moi, je pense que les choses qui sont les plus belles dans la vie, c'est quand tu ne les cherches pas, ils t'arrivent dans la main. Vous savez que ça dépend de toi, ça dépend de la façon d'être. Donc, pour moi, c'est un peu ça la grande joie. C'est vivre chaque instant et avoir la résilience chaque fois. Chaque fois qu'il y a un problème, quelle est la solution? Tout le temps, même au niveau associatif.
La résilience... pour m'être un peu intéressée au sujet. Je trouve que c'est une notion intéressante et complexe, parce que ça ne veut pas dire supprimer le mauvais souvenir, supprimer le traumatisme ou le mal. Ça veut dire fonctionner malgré ça. Trouver un nouveau mode de fonctionnement qui, tout en conservant le souvenir de ce qui nous rend malheureux, va nous permettre d'aller vers un autre bonheur et de continuer à se lever tous les jours, à fonctionner dans une vie relativement heureuse.
Là, tu dis quelque chose qui est très intéressant, parce que je connais quelqu'un qui, au fond, il avait souffert un traumatisme grave, un viol, on va dire comme ça, clairement, et la personne... Il était totalement fâché contre cette personne qui a été masquée, qui a fait ça, c'était loin d'ici, de là. Et finalement, cette personne-là, si tu veux, elle s'est pénalisée deux fois. Mmh. Une fois pour être violée et une autre fois pour garder en tête tout le temps la...
Et un jour, ça la définissait. Bon, ça veut dire sujet-là est tellement grave que je ne connais pas.
Nous, je peux te dire une chose. Dans le stade national, il y avait des gens qui étaient violés aussi, dans le stade national de Chili. Mais je dis par là qu'à un moment venu, tu dois, surtout quand tu ne connais pas la personne, tu dois apprendre à pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Quand tu pardonnes quelque chose qui par exemple, Pinochet qui était un grand méchant dictateur.
Ah ben je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on n'est pas obligé de pardonner.
Ça veut dire que tu pardonnes pour toi. Parce que lui, il ne sait pas, il est mort. Déjà. Par contre, si toi, tu es tout le temps en train de penser qu'il est négatif, la colère et tout ça, à un moment venu, tu dis c'est un fou, tu le classes comme un fou, et à un moment venu, tu te libères, mais tu n'oublies pas que ce type d'atrocité peut revenir. Ce n'est pas la même chose. Tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait quelque chose pour te libérer, toi. L'autre, il ne sait pas, il est parti, il est au Mexique. Mettons que tu es un copain au Mexique, il est au Mexique. Il reste là, mais tu dis, c'était un fou. L'effet de les classer dans les fous, parce que tu ne sais même pas l'effet de ça, tu te libères d'un poids.
Non, mais se libérer d'un poids, je suis d'accord. Mais avant, j'étais de ton avis. J'ai changé d'avis récemment, figure-toi. Peut-être. Je me dis que on n'est pas cette idée que pardonner nous libère, je crois qu'on peut se libérer sans pardonner. Je crois qu'il y a de l'impardonnable. Je me suis dit ça récemment. Je me suis dit, j'avais la même idée que toi avant. Et je pense qu'on peut avancer, être heureux. Et le pardon, pour moi, il est réservé aux immenses sages, tu vois, oui, aux plus grands. Et je ne suis pas sûre qu'on ait tous nécessité d'arriver à ce niveau-là.
Psychocomportementalisme en parlant, l'effet de pardonner, par exemple, quelqu'un cagoulé qui était fait de la torture, par exemple, il ne sait pas qui c'est. Mais si je les vois tous les jours, je dis je l'ai, mais je ne les vois pas parce qu'il était cagoulé. Il a fait des tortures dans les cas de... Dans ces cas-là précis, que tu ne vois pas l'image, tu ne vois rien, tu peux effacer quelque chose. Tu peux pardonner quelque chose. Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. J'ai une amie à moi qui est morte, qui tu la connais aussi, qui pour avoir le téléphone portable et tout ça. Elle était fâchée avec son père parce que son père était un raciste de premier niveau. Et comme son père était un raciste, il s'est fâché tout le temps pour Noël, tout ça. Il y a une grande dispute. Il s'est rendu compte qu'il est pardonné d'être comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il acceptait, parce qu'il était le contraire. Il était avec tout le monde, il était loin d'être raciste, c'est pas tout. Mais il a pardonné pour laisser que Noël, quand il venait de loin vers Marseille, ça ne dispute pas parce qu'il souffrait aussi de ne pas voir sa famille.
Ce n'était pas
une famille qui correspond. Donc, dans ces cas-là, il a pardonné d'être comme ça. Il ne pouvait rien faire parce qu'il était comme ça. Mais c'est l'effet de le pardonner, ça l'a allégé pour être plus heureuse, elle. Ça ne veut pas dire que son père a changé. Ça ne veut pas dire qu'il était bien ou pas. Non, ça veut dire juste que... Elle dépasse ça pour être libre, pour pouvoir être mieux. C'est dans ces cas-là qu'elle pardonne. Là, les cas des tortionnaires aussi qui sont...
Mais certainement, son père avait des raisons d'être pardonné, était pardonnable. En général, s'il a été un bon père, par exemple, pour elle, il avait toutes les raisons d'être pardonné. Je dis juste qu'il y a des choses, on n'est pas obligé de tout pardonner. Je crois qu'il y a de l'impardonnable.
Je suis d'accord, mais j'ai pardonné tout ce qui était impardonnable déjà.
Et l'impardonnable n'étant pas forcément...
C'est vrai.
Tu vois, je parle d'autres choses plus terribles.
Maintenant, je veux qu'on parle aussi du bonheur d'être terrien, du bonheur de... Là, par exemple, je vais partir bientôt à la COP30, que j'assume.
qui se trouve, la COP30.
Se trouve à Belém, au Brésil.
Ouais.
Et on parle parce qu'on s'est rendu compte, malgré tout, tu vois, ça, c'est pour ça que le regard des autres, c'est important, parce qu'ils vont te dire, ah, tu parles de la COP, il y a tous les bandits, il y a tous les gens qui vont à la COP, qui sont des frics.
Tu peux nous rappeler ce qu'est la COP ?
La COP, c'est la réunion de tous les pays pour protéger la Terre, pour que la Terre n'ait pas de changement climatique, il n'y a pas de température qui va tout envoyer l'air, donc on pollution de l'air, etc.
C'est la conférence donc, des partis de l'Union.
De la Nations Unies.
Les Nations Unies.
Donc, quand tu arrives là-bas, au départ, je me faisais critiquer par tout le monde. Et c'est là qui vient la force de dire pourquoi je fais les choses. Okay. Je fais les choses parce qu'il y a là-bas, oui, il y a 60 000 personnes qui viennent. Des 60 000, 50 000 sont des gens qui veulent avoir des fric, qui veulent gagner des sous à cause du climat. Et il y a 10 000 de chercheurs, d'associations comme les nôtres qui ont besoin de ces traits-là pour pouvoir se battre. Ils se battent des fois, bien souvent la COP, il est dans les pays où il y a du pétrole, tout ça. Et quand il va aller là-bas, il négocie les fers chasseurs et des passages dont 3 milliards. Pour... Donc si tu veux, c'est toute une espèce de négociation qui s'est faite, qui c'est nécessaire malgré qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Ça veut dire que les petits de ce monde, nous, quand on va dans ces COP-là, grâce à ça, ça fait 2 ans que j'ai lancé un réseau, on est à 1600... jeunes, donc qui sont partis d'un réseau qui s'appelle le réseau Climat Jeunesse. Donc on voit bien qu'on peut faire des choses, il faut y croire. Mais par contre, je vais accepter aussi les gens qui te traitent de n'importe quoi parce que tu vas à la COP. Tu t'écoutes pas.
Ce que tu veux, tiens, ça me fait penser à le conseil que m'a donné un ami il y a quelques jours, lundi c'était. Il m'a dit, tu sais, les petits pas, un petit peu... Pour aller vers le progrès, pour progresser, tu sais, pour s'améliorer. Parce que ça peut être aussi une source de bonheur de s'améliorer comme communauté, comme société et comme être humain. Il m'a dit, il n'y a pas de... Un petit pas vaut mieux que rien. Avant, oui. Moi, j'essaye d'arrêter de fumer, bon, ça fait longtemps. Mais là, j'ai un peu diminué ma consommation. Je dis, j'ai pas arrêté, j'ai diminué. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, c'est toujours...
Il faut s'applaudir.
C'est 10 cigarettes en moins. C'est mieux que le compta habituel. Mais c'est toujours mieux.
N'oublie pas que ma phrase, une des phrases préférées de Machado qui dit « Marcheur n'a pas de chemin, le chemin c'est fait en marchant ».
Le chemin se fait en marchant. Donc, et c'est ce que tu vas faire à la COP.
Et c'est qui est très important aussi, qu'il faut faire attention où tu mets tes pieds, parce que ça aussi c'est important. Et ce qui est important, c'est n'a pas peur d'avancer peu, c'est qu'il faut avoir peur de s'arrêter.
Voilà, de s'arrêter, de ne rien faire, d'être bloqué sans aller dans...
Et surtout, et l'autre phrase que j'aime beaucoup, que dans ce monde, quand tu fais quelque chose, tu vas avoir contre toi tous ceux qui veulent faire la même chose que toi, et tu vas avoir contre toi aussi les gens qui carrément, ils sont contre tes idées, et les pires de tous, la grande armée des gens qui foutent rien, ils seront toujours contre toi. Donc si tu n'acceptes pas ça, il vaut mieux même pas commencer à agir, parce que de toute façon... Et le regard des autres, il aime plein gueule.
En gros, si tu ne le fais pas, ne critique pas.
Exact. Voilà.
Exact. Ouais. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte, ce n'est pas celle-ci. Mais une phrase aussi qui invite à être bienveillant, même si le mot est de plus en plus galvaudé, mais moi j'ai envie de l'utiliser quand même. En tout cas, tolérant envers toutes les tentatives de nouveauté, les tentatives des personnes qui ont envie d'essayer. D'aller vers le mieux. J'ai beaucoup pensé avec ça, avec la flottille. J'ai entendu mille avis critiques aussi sur la flottille de Gaza, le fait que ce soit une publicité, je ne sais quoi. Mais ceux qui tentent, moi je suis tellement heureuse qu'il y ait des êtres humains, des âmes qui aient tenté de faire quelque chose pour montrer que c'est possible. Moi je les remercie.
Oui,
je les remercie. Ils sont l'exemple que ça peut bouger un petit peu, que quelques-uns ont réussi à se réunir, à s'unir, à s'organiser pour essayer, même si c'est désespéré, même si la fin était connue. Quel espoir !
Les meilleurs exemples étaient là à Marseille. À Marseille, on parle beaucoup de choses négatives. C'est même pas le 0,1%. Des fois, il y a plein d'associations qui font des choses. Peut-être, comme on n'est pas loin de la fin de l'émission, je voulais te demander, par exemple, le bonheur de faire une émission de radio. Toi, tu as participé à beaucoup d'émissions d'Ecoforum à l'époque.
Il y a longtemps, oui.
Pourquoi tu l'as fait et pourquoi tu es venu aujourd'hui ?
J'ai forcément un bon souvenir parce que tu m'as appelé, tu m'as écrit, je pense, à 11h30 pour l'émission de 18h.
Il y avait une liste.
Oui, tout de suite. Tu avais une liste, j'étais la 50e personne. Merci, Victor.
Non, tu étais la numéro 2.
Bon, ça va.
La numéro 1, elle dit non parce qu'il est venu là. C'est une amie aussi.
Mais bien, la il numéro 1, on l'invite la prochaine fois. On fera un trio sur la question peut-être de la réussite ou de l'avenir. Non, j'ai toujours aimé. Je trouve qu'à Radio Galère, il y a une ambiance. Je me suis toujours sentie la bienvenue. Et merci à la technique et merci à toute Sidi. L'équipe. Sidi. À Sidi, effectivement, qui m'a reconnue alors qu'il ne m'avait pas vue depuis au moins 6 ans, je crois.
C'est la preuve qu'il était encore jeune.
La preuve que je n'ai pas trop changé. Merci, Sidi. Et j'ai trouvé qu'on a j'ai rencontré des gens. J'ai interviewé des gens très intéressants ici.
C'est vrai qu'on apprenait beaucoup de choses.
Chaque
émission,
choses.
Il y avait des gens qui nous apprenaient. Je pense que Sidi doit être un livre, une encyclopédie. Hein,
mais
avec
oui,
tout ce qui
c'est
était écouté. Ah oui. Mais moi, je dirais la même chose. Nous, on est, en tant qu'éco-forum, en tant que toutes les émissions, on a plus de 2000 émissions de radio. Normalement, la durée de vie des gens qui j'amène ici, c'est la durée de vie de la radio, on va dire comme ça, c'est 2 ans. Deux ans, les gens commencent très fort et après ils se dégonflent très vite. Parce que c'est la constance, c'est une chose. Et pour moi, les clés du bonheur, c'est 1, la conviction. 2, la constance. Conviction sans constance, c'est pas très bon. Mmh. Et après, petit à petit, vient la compétence.
La conviction après, s'inscrit dans le temps.
Oui, elle s'inscrit dans le temps. Donc c'est pour ça que les émissions qu'on faisait ici, les gens me disaient, mais oui, mais qui va écouter cette radio ? Je les disais. Je ne sais pas si j'ai dit une erreur, mais normalement, une radio libre, n'importe quelle, avec les gens qui écoutent avec le rayonnement, tu as 300 personnes au moins qui sont quelque part en train d'écouter. C'est mieux qu'une salle de 20, c'est mieux qu'une salle de 30. Tu ne sais pas exactement combien il y a, mais le prorata, normalement, c'est minimum. Et des gens qui sont là parce qu'ils vont avoir l'accent, parce qu'ils vont avoir ta voix, de la personne qui est dans le bonheur,
la
je sais pas.
La voix feutrée du bonheur.
Voilà, donc il y a des gens qui vont t'écouter. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé beaucoup la communication, parce que mon grand défi, c'est de voir comment je fais passer les idées au maximum du monde. Et c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec l'écoforum, les éco-débats, les débats sur l'écologie pour faire bouger les politiques. Et pour autre part, j'ai créé les psychodébats parce que je pense qu'une personne doit être heureuse elle-même avant d'aider les autres.
Oui.
Si on n'est pas heureux soi-même, on va aider mal les autres. Donc c'est deux choses. Et c'est pour ça que je remercie Radio Galère aussi parce qu'on a créé cette émission pour parler du bien-être et petit à petit, parler du bien-être sans non plus rentrer trop dans les choses qu'on ne sait pas faire. Donc voilà, on est dans la fin de l'émission.
Dans la fin de l'émission, encore merci Victor.
Tu peux dire qu'est-ce que tu fais ?
Cette invitation, oui. Alors là, aujourd'hui, j'étais à titre personnel dans cette émission de radio pour donner un avis tout à fait à moi. Et je travaille chez Envirobat BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen, une association loi 1901 basée pas très loin de la Friche Belle de Mai, rue de Crimée, et qui défend la construction écologique et de plus en plus la rénovation. J'organise un colloque le 21 novembre ici sur la rénovation environnementale bâtiréable pour essayer de trouver des solutions pour les professionnels et rénover de plus en plus nos bâtiments qui consomment énormément.
Ça aussi, c'est parti du bien-être, d'avoir une maison respirable.
Tu sais que la ville de 2050 est déjà construite à 80%. C'est-à-dire qu'en 2050, on aura à peine 20% peut-être de logements et de bâtiments en plus par rapport à ce qui est déjà là. Et donc, si on veut que nos bâtiments durent, si on veut qu'ils résistent à l'augmentation des températures à venir, il faut qu'on rénove, qu'on isole, qu'on trouve les moyens de le faire, technique, économique et dans l'accompagnement des usagers de bâtiments et des habitants. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, c'est pas une mince affaire, il faut tout s'y mettre.
C'est le bonheur à l'intérieur de la maison.
Le bonheur dans la maison, parce que je pense que avoir un toit sur la tête, on sait que c'est une des conditions du bonheur de base. Donc essayons de nous entraider pour que tout le monde en ait un. Et de
et
qualité.
Soyez heureux. Soyez heureux.
Profitez bien de la soirée, soyez heureux et de la vie.
À bientôt et merci d'avoir écouté.